Les matins se poursuivent avec le journal de Rosalie Lafarge. Bonjour Rosalie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Il est normalement réservé aux situations sanitaires exceptionnelles et pourtant, un fichier des hôpitaux de Paris sert visiblement en ce moment à recenser les gilets jaunes et leurs blessures, ce qui met plus d'un professionnel de la santé en colère.
L'actualité française, qui l'emporte largement sur la campagne pour les européennes, elle a bien du mal à démarrer cette campagne. Et à un mois des élections, la menace de l'abstention plane sur le scrutin.
Le bilan toujours plus lourd au Sri Lanka, 359 morts et encore des centaines de blessés. Le groupe État islamique revendique ces attentats perpétrés dimanche dans des églises et des hôtels.
Et puis dans ce journal, nous irons aussi en Espagne à 4 jours des législatives anticipées.
Et puis nous quitterons quelques instants la planète Terre pour aller sur Mars où pour la première fois un séisme a été détecté. Quand le secret médical vole en éclats, les hôpitaux de Paris ont-ils fiché les gilets jaunes blessés? La PHP rejette les accusations. Mais ce matin, le Canard enchaîné fait de nouvelles révélations, preuve à l'appui. Les données médicales des manifestants admis dans les hôpitaux parisiens sont bien inscrites dans un fichier Farida Noir.
Tir de flashball, plaie à l'arcade, traumatisme main gauche, plaie oreille. Et pour cet autre blessé, la description va jusqu'aux chaussettes, vertes à petits pois. Cet extrait du fichier dit civique publié par le Canard enchaîné daterait du 16 mars, jour de manifestation des gilets jaunes. Des blessures détaillées, problèmes. Dans un communiqué publié le week-end dernier, la PHP assure que si dans le civique figure le sexe, l'âge, le nom, le prénom, il ne comporte pas de données médicales. D'où la colère de Gérard Kierzek, urgentiste à l'Hôtel Dieu. Il a dénoncé ses pratiques.
C'est pire que ce que je craignais, parce que là, c'est du dossier médical qui est jeté en pâture je ne sais où. C'est un fichier parallèle qu'on demande aux médecins, aux soignants, sur ordre administratif, qu'on demande de remplir en parallèle du dossier médical. Donc là, c'est la confidentialité, le secret professionnel, tout vole en éclats, et surtout ce qui est gravissime, c'est-à-dire que j'ai lu les extraits, c'est-à-dire que ça permet d'identifier les patients. Donc non seulement il y a les données médicales, il y a le nom, il y a le prénom, il y a l'adresse, mais il y a l'identification, cheveux courts. Moi, je suis effaré que des gens aient pu remplir déjà, effaré qu'on nous demande ça. Moi, c'est un problème déontologique, c'est pas un problème politique, mais on voit bien l'utilisation, notamment la police peut venir cueillir ces gens-là dans les hôpitaux.
Sollicité, la PHP n'a pas souhaité répondre favorablement à notre demande d'interview.
Et toujours d'après le Canard enchaîné, ce fichier, le CIVIC, peut être consulté par des agents habilités du ministère de la Santé, mais aussi par ceux de l'intérieur, de la justice et des affaires étrangères. Farida Noir. Il assure que rien n'était à lui. Un pompier du Val d'Oise soupçonné d'appartenir au Black Bloc s'interpellé samedi pendant la manifestation des Gilets jaunes avec des cocktails Molotov et des feux d'artifice a été condamné hier. 10 mois d'emprisonnement avec sursis. Les Gilets jaunes qui rythment l'actualité en France depuis maintenant 23 semaines et qui peut-être freinent un peu le démarrage de la campagne pour les européennes. À un mois du scrutin, aucune thématique sur l'Europe n'a vraiment réussi à s'imposer dans le débat public. Et le désintérêt des Français pour ces élections n'est pas la seule explication, Stéphane Robert.
Il y a 5 ans, en 2014, il y avait eu un frémissement de l'intérêt des électeurs pour le scrutin européen, car le Parlement européen avait réussi à imposer le fait qu'on votait pour élire le président de la Commission, celui qu'on avait appelé le Spitzenkandidat du parti qui arrivait en tête du scrutin. 5 ans plus tard, il n'en est plus question. Et puis en France, peut-être plus qu'ailleurs, les problèmes internes ont pris le pas sur toute autre considération. Selon le chercheur à Sciences Po, Sylvain Kahn, co-auteur du livre « Le pays des Européens » chez Odile Jacob, même le très européen Emmanuel Macron a été contraint de mettre en sourdine ses grands discours sur l'Europe.
Quelle est l'explication à donner? Moi, il me semble que Emmanuel Macron a quand même été très très secoué ou déstabilisé par le mouvement des Gilets jaunes. Et que, à partir de là, j'ai l'impression qu'il y a quand même un lien de cause à effet entre ce mouvement des Gilets jaunes et cette contestation, quand même très très forte sur sa personne, et le fait que, il la met beaucoup plus en sourdine sur à quoi sert l'Europe, pourquoi l'Europe c'est bien. Voilà. Moi, c'est ça l'explication que je donnerais.
Il y a donc d'un côté le fait qu'avec la contestation des Gilets jaunes, les partis pro-européens, notamment En Marche, ont bien du mal à défendre une Europe perçue comme un accélérateur de la mondialisation. Et par ailleurs, d'un autre côté, on peut voir que la plupart des formations politiques ont un discours sur l'Europe beaucoup plus ambigu que par le passé. Même le Rassemblement national ne propose plus vraiment de quitter l'Union européenne et d'abandonner l'euro. Résultat, est-on pour ou contre l'Europe? Quelles frontières défend-on? Peut-on harmoniser les politiques fiscales? Aucune de ces thématiques européennes n'émerge dans le débat public. Et le grand vainqueur, encore une fois, le 26 mai prochain, pourrait bien être l'abstention.
Stéphane Robert du service politique de France Culture.
8h05 sur France Culture, la suite des matins avec le journal de Rosalie Lafarge. Et puisque nous sommes En compagnie de Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre et président de la Fondation Respublica, quel regard portez-vous, Jean-Pierre Chevènement, sur ces élections européennes ?
Toutes les élections européennes ont été marquées par un niveau élevé de l'abstention. Généralement, les électeurs se prononcent sur des enjeux intérieurs, beaucoup plus que sur la politique européenne. Alors là, c'est fâcheux parce que le président de la République a fait des propositions, on se souvient de son discours de la Sorbonne, et il faut bien le reconnaître, les Allemands n'ont pas été au rendez-vous. Ils n'ont pas renvoyé l'ascenseur. De sorte que il faut inventer. Il faut revenir à cette idée de l'Europe européenne qu'avait avancée en son temps le général de Gaulle. Je crois que c'est la bonne idée, mais c'est une Europe à géométrie variable. Ce sera une Europe baroque. Elle ne ressemblera pas à celle-ci, qui est critiquée à juste titre et dont la crise n'est pas terminée. Donc, je regarde le Parlement européen un peu comme le tribunal constitutionnel de Karlsruhe en Allemagne qui dit que ce n'est pas un vrai Parlement. C'est la juxtaposition de la représentation de 27 ou 28 peuples. On ne sait même pas si les Britanniques vont voter. Et c'est naturellement un forum utile. Ça n'empêche pas que je pense que l'Europe est une dimension de notre avenir. Je le crois. Mais il faut la concevoir autrement, d'une manière plus stratégique, comme le dit d'ailleurs le président de la République. Mais l'autonomie stratégique de l'Europe, pour la faire, il faut trouver des partenaires.
Allez-vous donner des consignes de vote, Jean-Pierre Chevènement ?
Aucune. Je ne suis plus à la tête d'un parti politique. J'ai atteint l'âge de la sagesse.
Mais quand on a atteint cet âge-là, on ne vote plus ?
Non, on vote toujours, je voterai. Mais je ne m'autorise pas de donner des consignes quand l'offre ne me satisfait pas.
Bon, en tout cas, on vous entendra dans quelques instants à nouveau sur le général de Gaulle, 8h07 sur France Culture, suite des matins avec votre journal, Rosalie Lafarge.
Et cette campagne pour les européennes, elle est aussi freinée par les annonces attendues d'Emmanuel Macron. Le président doit adresser demain le bilan du grand débat. Et parmi les pistes évoquées, peut-être la création d'une assemblée de citoyens tirés au sort chargés de faire des propositions sur la transition écologique. Une idée, Véronique Rebérotte, que le chef de l'État n'a pas eu tout seul.
L'idée vient de Démocratie Directe. L'association milite pour une démocratie plus participative. Elle séduit un large panel de personnalités, artistiques notamment, comme l'actrice Marion Cotillard ou Cyril Dion, réalisateurs des documentaires Demain et Après-demain. Tous deux sont aux avant-postes des mobilisations citoyennes sur le climat ces derniers mois. Ce sont eux qui, reçus à l'Élysée, ont plaidé auprès d'Emmanuel Macron pour la création d'une Assemblée nationale de citoyens chargée de réfléchir à la transition écologique. Une assemblée composée d'au moins une centaine de personnes, une réponse à une forte demande des Français, gilets jaunes compris, de démocratie participative. L'assemblée sera composée de citoyens tirés au sort. Ils devront être représentatifs de la société française et de ses territoires, citoyens, mais aussi élus et membres des corps intermédiaires. S'ils acceptent, ils seront formés par des experts de façon contradictoire, de quoi aider l'État à faire ensuite des choix, trouver des solutions en matière de transition écologique et de justice sociale, à mener aussi des réformes qui correspondent le mieux au bien général. Des propositions politiques qui pourront être rapidement soumises à référendum ou se traduire dans des projets de loi. À moindre échelle, une telle assemblée citoyenne chargée de réfléchir sur les OGM il y a 20 ans en France avait surtout démontré la capacité de profanes à s'approprier un dossier aux dimensions économiques, sociales et environnementales complexes.
Véronique Rebérotte. Une vraie connerie, les mots de Nathalie Loiseau à propos de sa présence sur une liste d'extrême droite quand elle était à Sciences Po dans les années 80. À un mois de ces européennes, la tête de liste de la majorité tente d'éteindre la polémique et la ministre des Transports vole ce matin à son secours, Elisabeth Borne.
Je pense que Nathalie Loiseau, elle a jamais été d'extrême droite. Elle a expliqué qu'elle avait été dans sa jeunesse, il y a 35 ans, sur une liste où il s'est avéré qu'un certain nombre d'autres candidats ont ensuite rejoint l'extrême droite. Vraiment, Nathalie Loiseau, moi, ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble au sein du gouvernement. Je peux vous assurer qu'elle a jamais eu des convictions d'extrême droite. Elle l'a dit, c'est une erreur. Elle aurait sans doute dû vérifier qui était présent sur cette liste. Elle n'a jamais eu des convictions d'extrême droite. C'est pas la peine d'essayer de nourrir cette polémique.
La ministre Elisabeth Borne, invitée de nos collègues de France Info à l'instant. Un responsable politique est-il comptable de ses engagements de jeunesse? Ce sera le thème du billet politique de Frédéric Saïs, juste après ce journal. Après des mois d'incertitude, c'est un peu l'audience de la dernière chance pour Ascoval. Le tribunal de Strasbourg examine en principe une dernière fois ce matin les projets des potentiels repreneurs de l'aciérie de Saint-Saulve dans le Nord. Les 270 salariés croisent les doigts.
8h10 sur France Culture, la suite du journal de Rosalie Lafarge. Trois jours après les attentats au Sri Lanka, l'enquête avance.
Et le bilan ne cesse de s'alourdir. 359 morts et toujours des centaines de blessés après ces attaques dans des églises et des hôtels. Le groupe État islamique revendique être à l'origine de ces attentats. Peut-être pensé comme une vengeance après le massacre dans deux mosquées de Nouvelle-Zélande le mois dernier. Ce dont doutent les experts en terrorisme d'Asie et d'Océanie, Karine Houten.
Les experts en terrorisme d'Asie et d'Océanie ont vu se multiplier les messages de haine de musulmans extrémistes sur les messageries sécurisées du type WhatsApp ou Telegram. Les manuels de fabrication de bombes ont circulé plus que d'habitude et le nouveau porte-parole de l'État islamiste s'est même adressé directement aux musulmans d'Asie. Mais appeler à des attaques d'église ne date pas des attentats de Christchurch il y a juste 5 semaines. En janvier, 2 bombes ont explosé dans une église de Jolo aux Philippines. Attaque similaire l'an dernier à Surabaya en Indonésie. C'est en fait l'un des chevaux de bataille de l'EI, surtout depuis sa déroute il y a un an et sa dernière défaite en mars dernier. Paul Buchanan, du bureau d'analyse en sécurité 36 Parallels Assessments, basé en Nouvelle-Zélande.
Il est absurde d'affirmer que les attaques du dimanche de Pâques au Sri Lanka sont liées à Christchurch, pour la simple et bonne raison que la planification et la préparation de ces attaques auraient pris des mois et non des semaines. Maintenant, Christchurch peut être utilisé comme excuse par le groupe État islamique qui cherche à montrer qu'il reste solide malgré sa défaite au Levant, mais aussi par le gouvernement sri-lankais dont l'échec des services secrets qui a permis ces attaques est incroyable.
Les experts sont unanimes. Les gouvernements asiatiques doivent renforcer leur vigilance maintenant que les combattants de Daesh rentrent chez eux, seuls, et s'attendre à plus d'attentats isolés.
Le reportage de Karine Houten, correspondante de France Culture en Asie du Sud-Est. Les secours s'activent toujours en Birmanie. Ils recherchent une 50aine de mineurs de jade portés disparus depuis 2 jours après un glissement de terrain dans le nord du pays. C'est un triste anniversaire qu'on commémore aujourd'hui. Il y a 104 ans débutait le génocide arménien. La France a fait de ce 24 avril une journée de commémoration, ce qui passe mal, très mal, à Nandlauer auprès de la Turquie.
En janvier 2001, la France avait été le premier grand pays européen à reconnaître officiellement le génocide des Arméniens de l'Empire ottoman. Cette journée officielle de commémoration rend furieuses les autorités turques qui accusent la France de manipuler l'histoire et lui rappellent sèchement son passé colonial. Selon Uluç Özülker, ancien ambassadeur de Turquie à Paris, Ankara ne reconnaîtra jamais l'existence d'un génocide.
D'accepter un génocide, c'est quelque chose. Regardez une fois l'Allemagne. Ils ont commis les génocides et ils sont toujours sous le très lourd poids qu'ils portent toujours sur leur dos.
Il y a eu des morts arméniennes, mais pas de génocide. C'est l'affaire des historiens, pas celle des politiques. C'est en quelques mots la position turque. Sur le fond, elle n'a jamais changé. Dans la forme, elle avait un peu évolué après l'arrivée au pouvoir de Recep Tayyip Erdogan. En 2014, l'actuel président turc avait présenté des condoléances aux descendants des Arméniens. Une timide avancée qui n'exclut pas de nouveaux reculs, estime Sinan Ulgen, directeur du Centre de recherche sur les études économiques et diplomatiques à Istanbul.
Aujourd'hui, il y a une alliance avec le parti nationaliste MHP, qui n'était pas le cas en 2014-2015. Donc, il y a plus de pression pour reculer la position de la Turquie.
Cela vaut aussi pour les relations diplomatiques entre la Turquie et l'Arménie, aussi inexistantes que la frontière entre les deux pays reste fermée.
France Culture à Istanbul avec Anne Andlauer. Et si vous voulez prolonger sur le sujet, qu'est-ce qu'être arménien en Turquie aujourd'hui? C'est à lire sur franceculture.fr. L'offensive judiciaire contre les grands patrons se poursuit en Algérie. Dernière victime en date, le PDG du géant algérien des hydrocarbures. Il a été limogé hier soir. Prison ferme pour deux figures d'Occupy à Hong Kong. Ce mouvement pro-démocratie à l'origine de manifestations monstres à l'automne 2014. Reconnus coupables de conspiration, ils sont condamnés ce matin à 16 mois d'emprisonnement. 2 débats en 48 heures. À 5 jours des législatives en Espagne, les principales têtes de liste se sont encore retrouvées hier soir à la télé. Et dans un climat bien tendu et avec un grand absent, Marie-Hélène Ballestero, le parti d'extrême droite Vox.
Selon les sondages, aucun parti ne devrait obtenir dimanche prochain la majorité absolue, d'où l'importance du jeu des alliances et de la formation d'extrême droite Vox, qui pourrait faire une entrée fracassante au Parlement espagnol et être décisive pour former un gouvernement. Pendant les deux débats télévisés, Vox n'était pas présent physiquement, mais son ombre planait. À droite, le sujet dérange, notamment Ciudadanos. Hier encore, son leader Albert Rivera a évité de prononcer le mot Vox, ce que lui a reproché le chef du gouvernement sortant, le socialiste Pedro Sánchez.
Il y a des silences assourdissants, monsieur Rivera. Vous ne citez pas Vox, l'extrême droite, dont vous avez pourtant besoin pour gouverner en Espagne. Et moi, je veux avertir les gens, car il existe un risque réel que ces deux partis fassent alliance avec l'extrême droite absente.
En janvier dernier, le Parti populaire et Ciudadanos ont réussi à former un gouvernement en Andalousie grâce aux voix de Vox. Un accord nié, une fois de plus, par Albert Rivera.
En Andalousie, comme tous les Espagnols le savent, Ciudadanos gouverne avec le Parti populaire. C'est un gouvernement de coalition où il n'y a pas d'autre parti. Si vous voulez demander à un autre parti qui n'est pas présent s'il va soutenir M. Sanchez ou moi-même à la présidence, eh bien c'est lui qui devra prendre la décision pendant l'investiture.
Ciudadanos est prêt à faire barrage au Parti socialiste espagnol, mais en ce qui concerne l'extrême droite, la porte reste ouverte, même s'il est difficile de l'admettre publiquement pour le candidat Albert Rivera. Le leader du Parti populaire, Pablo Casado, est moins réfractaire.
Actuellement, pour former un gouvernement comme cela s'est produit en Andalousie, nous serons ravis d'accueillir des partis constitutionnalistes comme Ciudadanos. Quant à Vox, il faudra leur demander, moi je vais me présenter à l'investiture et chacun sera libre d'appuyer ce projet.
Hier soir, alors que le débat télévisé battait son plein, Vox faisait sale comble à Madrid et affirmait « Quoi qu'il arrive, le 28 avril, nous avons déjà gagné ».
Marie-Hélène Ballestero. Ce n'est pas un tremblement de terre, mais un tremblement de Mars. Un premier séisme a été détecté sur la planète rouge et on le doit à un sismomètre conçu par les Français. Cocorico, Sophie Bécherel.
Arrivé 5 jours avant Noël sur la planète rouge, le sismomètre SEIS avait nécessité plusieurs semaines de mise en place. Déployé par un bras robotique au pied de la sonde, il avait ensuite été recouvert d'une cloche et d'une jupe en maille métallique, histoire de ne pas perturber les capteurs avec les forts coups de vent martiens. Le premier soubresaut a été enregistré sur Mars le 6 avril. Un signal très très faible, explique Philippe Lognonnet, géophysicien à l'Institut de physique du globe de Paris et responsable scientifique du sismomètre SEIS.
On est sûrement dans une magnitude 1, peut-être magnitude 3 si c'est un événement très loin, mais en tout cas un séisme tellement faible que sur Terre il serait complètement non seulement passé inaperçu, mais en plus peut-être même pas détecté par les instruments terrestres.
C'est donc une prouesse que d'avoir mis au point un instrument capable de détecter un séisme aussi faible. Comment expliquer que Mars tremble puisqu'elle n'a pas de plaque tectonique ? Philippe Lognonnet.
On pense que comme pour la Lune, ces tremblements de Mars viennent du refroidissement lent de la lithosphère, c'est-à-dire de la partie la plus superficielle de la planète. Elle a emmagasiné de la chaleur dans le passé, puis aujourd'hui elle perd cette chaleur et un petit peu comme tout ce qui se refroidit, ça se contracte et de temps en temps, à force de se contracter, ça casse.
À raison d'une dizaine de séismes attendus par an, le Big One martien d'une magnitude 4 est maintenant espéré avant la fin de l'année.
Et on scrutera ça de près avec nos petits yeux de terrien. Sophie Bécherel, ça souffle sur Mars, ça souffle sur Terre aussi, du vent, de la pluie et des nuages pour tout le monde aujourd'hui. On attend des orages en Alsace, en Ile-de-France et dans le centre Val-de-Loire. Côté thermomètre, ça baisse, les températures tournent autour des 15 degrés dans l'après-midi, Guillaume Erner.
Merci beaucoup Rosalie Lafarge, il est 8h18 sur France Culture, suite des matins, dans 30 minutes environ, vous retrouverez Aurélien Bélanger qui vous livrera sa conclusion sur l'iconographie. La France produit-elle trop de films ? C'est la question à laquelle tendra de répondre Mathilde Serrel dans son billet culturel. Et puis on évoquera le général de Gaulle, son héritage, cela fera bientôt 50 ans qu'il quittera le pouvoir, ou qu'il a quitté le pouvoir plus précisément, c'était un 28 avril et on commémorera cela donc dimanche prochain. Et puis de la politique avec vous Frédéric Seyss, bonjour.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
La jeunesse d'un responsable politique, oui. Alors
sont-ils comptables de leurs engagements de jeunesse? On en parle parce que Nathalie Loiseau a été épinglée par Mediapart pour avoir figuré sur une liste d'extrême droite, je cite, pendant ses années à Sciences Po.
On fera réagir Jean-Pierre Chevènement, notre invité, dans quelques instants à cette question.